Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Nous sommes le vendredi 17 novembre 2023 et il est 19h05 en temps universel. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à l'écoute d'une nouvelle édition de l'Amérique et vous. Au micro, Jacques Aristide, en direct de Washington. De l'autre côté de la vitre, Michel Joseph pour la mise en onde. Ce soir, coup de projecteur sur la rallonge du budget de l'État fédéral américain approuvé par les deux chambres du Congrès des États-Unis. Mais pourquoi les élus américains ne parviennent-ils pas pour le moment à voter des budgets d'un an, contrairement à ce que font la plupart des économies de la planète? Et comment cette crise budgétaire influence-t-elle la perception de la stabilité politique américaine à l'étranger, notamment en Afrique? Analyse et commentaires à venir dans cette émission. Permettez-moi maintenant de vous présenter les trois invités qui vont nous accompagner tout au long du programme. Ils sont tous basés ici aux États-Unis, en direct de la ville d'Annapolis dans l'état du Maryland. Le professeur Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group. Bonsoir, professeur Seznec.
Bonsoir, Jacques.
J'accueille également l'analyste américain Calvin Dark. Il est le directeur et cofondateur de RC Communications, un centre de réflexion qui se trouve dans la capitale américaine. Mais ce soir, il nous rejoint via WhatsApp de Dearborn, dans le Michigan. Vous vous préparez pour Thanksgiving. Bonsoir, Calvin.
Oui, c'est ça. Bonsoir.
Parfait. Et en ligne de Dallas, dans l'État du Texas, Junior Bonpetit, entrepreneur et activiste politique, originaire de la République démocratique du Congo. Bonsoir, Junior.
Bonsoir, Jacques. Merci.
Voilà. Alors, le Congrès des États-Unis vient donc d'éviter la paralysie de l'administration fédérale, le fameux shutdown, tout juste avant les grandes retrouvailles familiales de Thanksgiving, qui va être célébrée jeudi prochain, de même qu'avant les fêtes de fin d'année. Après un premier épisode, en septembre dernier, la Chambre des représentants et le Sénat ont adopté dans le courant de la semaine un projet de loi pour prolonger le budget de l'État fédéral, mais sans inclure l'aide à Israël, à l'Ukraine et à Taïwan. L'accord est le fruit d'âpres négociations au Capitole et témoigne des dissensions entre républicains et démocrates. Jean-François Seznec, une fois encore, le répit ne sera que de courte durée. Une partie du budget expire désormais le 19 janvier, l'autre le 2 février. Quel est l'impact de cette situation budgétaire précaire sur l'économie américaine?
Ben écoutez, à mon avis, c'est quand même assez surprenant que l'impact est relativement limité. Les marchés financiers n'ont pas l'air de prendre ça très au sérieux et j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus préoccupés par la situation internationale en général et pardon, par les vacances qui arrivent et les fêtes qu'ils sont en train de préparer. Donc l'impact direct pour le moment n'est pas encore vraiment ressenti et vu et le problème est vu vraiment comme étant un problème entièrement politique, ce qui est vrai, et qui sera peut-être ou pas résolu en janvier. Donc on a simplement décidé de prolonger le problème et de voir ce qui va se passer à ce moment-là.
Ouais, le temps nous le dira. Calvin Dark, est-ce donc le début d'une longue série de rallonges budgétaires sans solution durable, comme le craignent certains économistes?
Oui, je crois, mais je crois aussi que les économistes aux États-Unis et au monde, ils sont habitués à cet impasse complètement artificiel. Une chose que je trouve très intéressante, c'est que vu de l'extérieur, ça donne l'impression que les États-Unis souffrent d'un manque de fonds. C'est toujours la question posée par mes collègues à l'étranger, mais c'est pas du tout le cas. L'impasse et l'accord sur comment dépenser les fonds. Mmh. Alors, c'est pour ça que cette impasse est complètement artificielle. Chaque fois qu'on approche un shutdown, c'est une création des démocrates et républicains. Mais je crois que c'est parce que c'est partie du processus normal à Washington, les économistes n'ont pas peur.
Junior, bon petit, en quoi l'exclusion de l'aide à Israël, à l'Ukraine et à Taïwan dans l'actuel compromis budgétaire entre les démocrates et les républicains est-elle significative?
Merci pour la question, Jacques. Je pense que le législateur américain, le Congrès américain a voulu jouer à l'équilibre. Pourquoi on ne peut pas donner l'aide à Israël parce que nous soutenons l'Israël et exclure l'Ukraine parce que nous sommes contre ces fonds-là. Alors pour ne pas faire deux poids deux mesures, on a juste préféré mettre tout le monde dans le même package et exclure cette aide-là. Mais bien évidemment, nous aurons à louer l'aide pour l'Ukraine parce que c'est très très important pour nous. Et je pense que c'était plutôt dans cette optique-là de jouer à la calmie pour faire passer le budget et assouplir aux besoins de tout le monde, quoi.
Jean-François Seznec, Calvin Dark disait à l'instant, voilà comment cette situation est vue peut-être à l'étranger, les questions qu'il reçoit de la part de ses amis. Mais quelles pourraient être les répercussions internationales de tels plans budgétaires temporaires, manifestement non conventionnels, juste pour éviter le shutdown?
Mais écoutez, les conséquences pourraient être quand même très graves, parce que si vraiment on ne réussit pas à éviter le shutdown, hein, l'arrêt complet du gouvernement, si on ne réussit pas, bah, le gouvernement va s'arrêter, et ça crée énormément de problèmes, parce que ça montrerait au monde, si vous voulez, que les États-Unis sont très faibles et n'ont pas de direction en ce moment. Ce qui, je suis un peu d'accord avec avec ce que disaient mes prédécesseurs, c'est que pour le moment, ça n'a pas l'air de ce qui, c'est peut-être pas ce qui va se passer, mais c'est toujours, il y a un risque énorme quand même qu'on n'arrive pas à un accord.
Calvin Dark, j'aurais aimé revenir sur cet aspect que vous avez mentionné tout à l'heure. Comment cette crise budgétaire influence-t-elle la perception de la stabilité politique des États-Unis à l'étranger, par exemple dans un continent comme l'Afrique?
Oui, c'est toujours le cas que je crois que vu de la part des Africains, il y a un double message. Toujours les États-Unis, nous sommes en train de dire que la démocratie, la liberté d'expression, le free market, que ça c'est la façon de gérer un pays. Mais à la fois, on voit que on a des défis avec la démocratie, avec ces libertés. Alors, je crois que c'est possible que ça s'est mal interprété par les Africains, que la démocratie ne marche pas. Selon moi, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. La démocratie est en train de marcher, mais ce n'est pas toujours facile.
Calvin Dark, en fait, il y a quelque chose d'autre que j'aurais aimé vous demander, puisque vous avez parlé tout à l'heure justement des questions qui sont posées par des personnes que vous connaissez à l'étranger. Quid de la dette américaine, qui est vue comme étant énorme?
Oui, le problème, je crois aussi, pour la dette américaine, c'est que nous dépensons plus qu'on a. Et alors, le désaccord, c'est sur nos priorités. Et parce que on ne peut pas arriver à un accord sur nos priorités, à priorité ici aux États-Unis, mais ici nos engagements à l'étranger, vu de l'extérieur, c'est peut-être qu'il n'y a pas ce consensus sur le rôle des États-Unis dans le monde. Et c'est toujours un débat de comment financer, par exemple, en Ukraine ou la guerre en Israël. Et ça, je crois, donne l'impression que les Américains ne sont pas sûrs exactement quel projet ils veulent soutenir.
Junior Bonpetit, comment la gestion de cette crise budgétaire par Mike Johnson en tant que nouveau speaker de la Chambre des représentants est-elle perçue par les acteurs politiques américains?
Je pense que ce que le nouveau speaker a présenté, c'est à peu près ou à une différence près de ce que son prédécesseur, Kevin McCarthy, a présenté. C'est que ce dernier souffrait un peu de sa personnalité conflictuelle un peu, où il n'avait pas assez de confiance, de crédit auprès de ce père et qui a fait qu'on puisse l'éjecter. Mais sinon, c'est que Mike Jackson a présenté, c'est la même chose. Mais sinon, lui, il bénéficie d'une période de grâce. Il vient à peine d'arriver, on lui donne un peu une chance de temps de passer et voir comment faire les choses. Mais je dois l'avouer, tant que républicain, nous avons quand même du mal. Hein. Notre majorité, je dois l'avouer, je dois le dire, nous avons quand même du mal à faire passer les choses facilement. Et pourtant, nous bénéficions d'une petite marge de majorité que nous devons quand même rectifier les tirs pour bien faire les choses. Parce qu'il y a quand même une petite anomalie au sein de notre parti.
Donc, vous êtes en train de dire que le plan de Mike Johnson est pratiquement similaire à celui qui a été présenté par Kevin McCarthy. Mais Kevin McCarthy a été éjecté, justement, comme vous le dites, par les membres de son propre parti républicain.
Exactement, c'est Kevin avait un problème un peu personnel, l'interpersonnel, sa personnalité avec ses collègues. Parce que maintenant, c'est venu à la lumière de tous que le même plan que McCarthy a présenté et Mike Johnson présente la même chose. Il n'y a pas de différence, il y a beaucoup de similitudes. Ouais, c'est plutôt au niveau de personnalité, il y avait peu de crédibilité. On le voyait beaucoup plus côté démocrate que républicain, alors que Mike Johnson est beaucoup plus, comme on dit, MAGA, un bon conservateur et qui garde bien la vision du Parti républicain. Mais plutôt, il difficile une période de grâce.
Voilà. Et celui, en fait, qui est considéré comme le tombeur de Kevin McCarthy, c'est l'élu de Floride, Matt Gaetz.
Yes, l'élu de Floride.
Oui. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'écouter des extraits de commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Michel Joseph nous prête sa voix pour la lecture de ses points de vue.
Alphonse Mbouaki de Kinshasa, en République démocratique du Congo, écrit ceci. Cette instabilité budgétaire menacerait l'aide au développement du continent africain. Les actions humanitaires dans une Afrique pleine de conflits et de guerres et de calamités naturelles et humaines. L'Afrique manquerait le grand soutien américain. Les missions de maintien de la paix en Afrique n'auront pas d'efficacité et les agences onusiennes, financées grandement par les États-Unis, souffriraient de grands soutiens. Et on assistera à des déficits de fonctionnement de l'UNESCO, de la FAO, du PAM et d'autres agences de l'ONU. Et Aksanti Shengamungu Olivier de Bukavu, également RDC, dit ceci. La crise budgétaire influence la perception de la stabilité politique américaine à l'étranger, y compris en Afrique, de plusieurs manières. Tout d'abord, elle peut semer le doute quant à la capacité des États-Unis à prendre des décisions politiques et financières cohérentes, ce qui peut affaiblir la confiance des partenaires étrangers et des investisseurs dans la fiabilité des politiques américaines. De plus, l'instabilité budgétaire peut avoir un impact sur l'aide étrangère et les programmes de coopération avec des pays étrangers, y compris de nombreux pays africains, ce qui peut compromettre la mise en œuvre de projets de développement et l'aide humanitaire. Cela pourrait également influencer les relations diplomatiques et commerciales des États-Unis avec les pays africains. Enfin, cela peut également affecter la réputation des États-Unis en tant que partenaire fiable et influent sur la scène internationale. Les incertitudes liées à la politique budgétaire pourraient altérer la perception de la puissance et de la prévisibilité des États-Unis, ce qui peut avoir des répercussions sur les relations diplomatiques et l'influence géopolitique du pays en Afrique et dans le monde.
Merci beaucoup Michel Joseph. Vous écoutez L'Amérique et vous, une émission que vous propose VOA Afrique chaque vendredi. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous ce soir. Nous abordons la crise budgétaire évitée de justesse ici aux États-Unis et qui aurait mis une partie du pays à l'arrêt. D'emblée, nous retrouvons nos trois invités. Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group. Il est à Annapolis dans le Maryland. Calvin Dark, lui, nous rejoint de la ville de Dearborn, dans le Michigan. Il est le directeur du think tank RC Communications. Également au téléphone, depuis Dallas, dans l'État du Texas, l'entrepreneur Junior Bonpetit. Il est aussi très engagé dans la politique américaine, surtout du côté des Républicains. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Jean-François Seznec, quelles sont les conséquences potentielles de cette situation budgétaire pour ce qui est des programmes d'aide internationale des États-Unis, particulièrement ceux en Afrique, justement comme notre auditeur Axanti Chengamungu l'évoquait tout à l'heure?
Écoutez, oui, les commentaires de vos auditeurs sont excellents. Ils sont bien meilleurs que tout ce que je pourrais moi vous dire. Mais il est certain que l'impact va être très négatif sur l'aide américaine à l'Afrique, l'aide américaine aux Nations Unies et à toutes les agences des Nations Unies. Donc, parce que quand le budget va être vraiment négocié, le budget final sera complètement négocié, il va y avoir des coupes sombres qui seront inévitables parce que le Parti républicain veut qu'il y ait plus de discipline fiscale et beaucoup de démocrates sont d'accord avec le Parti républicain dans ce domaine-là. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir des coupes sombres qui vont avoir des conséquences très importantes sur le budget. Ce qui va être le plus facile de couper, si vous voulez, c'est l'aide justement aux pays étrangers et aux Nations Unies.
Des commentaires très pointus, effectivement, de la part de nos auditeurs, à qui je dis un grand merci. Calvin Dark, quel rôle les élus républicains décrits comme proches de l'ancien président Donald Trump ont-ils joué dans les négociations budgétaires et quelle influence cela a-t-il sur la politique américaine?
Oui, je crois que après le débâcle avec Kevin McCarthy, l'ancien speaker, les républicains, surtout les MAGA républicains, les partisans très forts de Trump, se rendent compte qu'ils contrôlent une partie sur trois dans le processus de promulguer les lois aux États-Unis. Bien sûr, le Sénat et le président sont démocrates, sont les autres deux. Alors, ils ne sont pas en position de vraiment insister sur leur agenda politique ultra-conservateur. Ils doivent accepter le compromis. Et ça, c'est complètement à l'opposé de stratégie de Donald Trump. Alors, évidemment, cette obligation de travailler avec les démocrates et les républicains modérés ne plaît pas à ce groupe de MAGA. Alors, je crois que dès maintenant, jusqu'à les élections de novembre 2024, on va avoir cette impasse entre les républicains MAGA et les modérés. Mais je crois qu'ils sont en train de voir que c'est pas toujours leur façon de faire ça à Washington. Ils doivent partager le pouvoir.
Oui. Junior Bonpetit, avant que je ne vous pose la prochaine question, peut-être une petite réaction par rapport à ce que vient de dire Calvin Dark.
Non, pour une fois, je partage le même point de vue que lui, donc je pense que nous devons faire des concessions parce que ces déchirements entre nous ne nous profitent pas. Par contre, ça nous rend des faveurs.
Vous pouvez vous-même peut-être commencer à négocier pour les budgets à venir. Juste avant, pour revenir à vous, Junior.
Oui. Par rapport au budget, je pense que nos revendications sont fondées parce que nous prenons une restructuration formelle, je veux dire structurelle. C'est que nous, c'est les États-Unis d'abord, l'Amérique d'abord, c'est ça même, on dit MAGA, American First. Ouais, nous avons des crises ici en interne, à la frontière, et nous avons des homeless ici à New York, des gens dorment dans la rue, nous devons aider ces gens-là. Et c'est parce que c'est l'argent du contribuable américain. Ouais, c'est un peu ça, restructurer les choses, réorienter choses et l'aide à l'ONU, aux pays étrangers, c'est vrai que ça aide aussi, mais nous devons prioriser l'Amérique d'abord.
Oui. MAGA, il faut le dire, oui, c'est vrai, ça signifie Make America Great Again. Alors, Junior Bonpetit, autre question. Quel impact cette situation budgétaire a-t-elle sur la position des États-Unis en tant que leader mondial, en particulier aux yeux des pays africains?
Oui, comme disaient les commentateurs, c'est un peu une. une image de faiblesse. Vous voyez, c'est lorsqu'on est fort, on fait passer les choses dans la sérénité. Et mais je pense que c'est la démocratie qui vit en son rythme normal. Et il y a les contradictions et tout ça. Il y a des remous, il y a des ratés. Mais je pense que je prends ça dans le compte de la démocratie. Mais nous devons rectifier les tirs pour essayer de redorer notre image. C'est très important. Et surtout que pendant le quinquennat de président Biden, les États-Unis a perdu sa perception, surtout en Afrique ou dans le monde en général, devenu de plus en plus faible. Nous devons essayer de changer cela pour garder notre standard plus haut, parce que plus qu'il y a des concurrents, la Chine et d'autres pays, l'Amérique doit garder la tête haute.
Jean-François Seznec, en quoi cette situation budgétaire révèle-t-elle les limites et les défis du système politique bipartite américain? Et pensez-vous qu'à un certain moment, l'actuel Congrès va pouvoir adopter un budget à long terme?
Écoutez, le système biparti est à la base fondamentale de ce qui se fait aux États-Unis depuis près de 200 ans déjà. Et effectivement, il y a peut-être un changement qui va se passer, où il y aura une réorientation des partis entre les extrêmes et un parti centriste qui prendrait les centristes à la fois républicains et démocrates. Et peut-être, ça va peut-être changer un petit peu la forme des choses, mais c'est très difficile de mettre ça en place à l'heure actuelle parce que toute la structure politique est basée sur ce bipartisme. Donc je ne sais pas vraiment comment ça va se passer plus tard, mais effectivement, les négociations se passent au centre en ce moment. Et je pense qu'il va peut-être y avoir un réalignement au centre, à la fois du côté démocrate et du côté républicain.
Oui. Calvin Dark, en quelques mots, si vous pouvez, quelles leçons les pays africains peuvent-ils tirer de cette crise budgétaire américaine en termes de gestion économique et politique?
Oui, je crois que c'est très préoccupant pour l'Afrique parce que on sait que l'Afrique n'est pas la priorité qu'elle mérite d'être, d'après moi. Alors, il sait que en Afrique, les initiatives et les projets à l'étranger sont parfois les premières choses à couper. Et malheureusement, sur cette liste, l'Afrique n'est pas une priorité à sauvegarder. Alors, je crois que ça va être une situation préoccupante pour les Africains parce que le soutien américain, c'est extrêmement important pour beaucoup de projets partout en Afrique.
Junior Bonpetit, comment la communauté internationale, en particulier les pays africains, peut-elle se préparer ou s'adapter à de telles incertitudes politiques et économiques émanant des États-Unis?
Je pense que les pays africains, chaque pays doit se prendre en charge, doit s'assumer. Vous voyez, l'Amérique d'abord, il est le temps où l'Amérique était le Père Noël distribué à tout le monde est révolu. Il est temps que les pays africains puissent assumer et avoir une économie intravertie. Et c'est que nous, aux États-Unis, nous prenons au Parti républicain l'Amérique et l'Amérique d'abord.
Calvin Dark, partagez-vous cet avis?
Oui, en principe, oui, je crois. Je crois que le problème, c'est qu'est-ce que c'est exactement les priorités pour mettre America first, comme dit Donald Trump. Et je crois qu'on va résoudre une partie de cette question avant novembre aux États-Unis.
Ah bon, vous êtes confiant?
Oui, c'est ça. Je suis optimiste.
Oui. Êtes-vous aussi optimiste, professeur Seznec?
Peut-être un peu moins optimiste parce que je pense que la crise va être très difficile à se résoudre. Par contre, pour répondre à votre question sur les pays africains, la façon dont ils pourraient s'adapter, je pense qu'une chose qui pourrait se passer dans les pays francophones et autres d'ailleurs, et anglophones, c'est que les pays africains laissent flotter leur monnaie beaucoup plus qu'ils ne le font actuellement, de façon à forcer, si vous voulez, l'économie locale à se développer vis-à-vis de l'économie internationale. Ce sera un coût assez cher à payer pour les pays africains, mais je pense que ça les sortirait de la dépendance de l'Amérique.
Oui, mais rapidement, professeur, si vous pouvez, en fait, peut-être il faut le rappeler, quelles seraient les conséquences d'un shutdown sur les services fédéraux essentiels aux États-Unis?
Écoutez, beaucoup de départements du gouvernement américain arrêteraient de travailler. le moral des autres départements comme l'armée, la police, etc. seraient affectés parce que eux continueraient de travailler, mais ils seraient pas payés. Et ça créerait des gros problèmes, finalement.
Très bien, et voilà, c'est tout pour l'Amérique et vous, édition du vendredi 17 novembre 2023. Merci à nos invités, Junior Bonpetit, Jean-François Seznec et Calvin Dark. Michel Joseph a assuré la mise en onde, Jacques Aristide du Studio 9 à Washington. Je vous souhaite une très belle soirée et un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, take care, comme on le dit ici à Washington. Mais s'il vous plaît, vous qui nous écoutez en direct, n'allez nulle part ailleurs. Jean-Roger Billon est de retour pour la troisième édition du Monde aujourd'hui. Au revoir, à très bientôt sur les ondes de la VOA.